Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous parlerons santé avec Jean-François Mattei, professeur de pédiatrie et de génétique médicale, et aussi ancien ministre de la Santé et président de la Croix-Rouge française. Monsieur Mattei est aujourd'hui membre de l'Institut de France et président de l'Académie nationale de médecine. Nous le recevons aujourd'hui suite à la parution de son dernier livre, Santé, le grand bouleversement, Comment serons-nous soignés demain, paru aux éditions Les liens qui libèrent. Dans son livre, Jean-François Mattei dresse une cartographie des enjeux et défis en matière de science et de santé publique. Dans ce podcast, il nous dit pourquoi les sensibilités philosophiques, métaphysiques et éthiques sont déterminantes à l'évolution de la science et de l'homme, pourquoi l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer l'homme, pourquoi la psychiatrie est l'avenir de la médecine, et pourquoi l'obésité, la vaccination et la pollution de l'air sont des points de surveillance majeurs en termes de santé publique. Alors, Monsieur Mattei, bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir.
C'est la moindre des choses.
On est ravis de vous avoir au sein de Blooming You pour votre dernier livre, Santé, le grand bouleversement. Comment serons-nous soignés demain, aux éditions Les liens qui libèrent. Alors, votre livre est un livre qui dresse une cartographie des enjeux et des défis en matière de science et de santé publique. Dans les défis, vous prêchez notamment un nécessaire retour à une sagesse humaniste. Vous commencez d'ailleurs votre livre en déclarant que le retour aux sources de la philosophie et de l'éthique sont nécessaires pour accompagner la culture scientifique. Vous dites que dorénavant, tous les soignants devraient être formés à l'éthique. Pourquoi ?
Parce que je pense que nous sommes dans une période où les valeurs de référence sont avant tout l'individualisme, le matérialisme et l'hédonisme. Et que même si ces préoccupations sont légitimes, je ne pense pas qu'elles permettent à l'homme un accomplissement, un épanouissement et une vie sociale qui lui permet d'être vraiment un homme dont je vous rappelle qu'on dit que l'homme est un animal social. Donc il faut parler avec les autres et il faut échanger. Mais nous sommes dans le même temps, dans une période de grands progrès techniques, scientifiques, médicaux, et ce qui est important, ça n'est pas tellement la connaissance, mais c'est l'usage qu'on en fait. Or, comme on nous présente tous les jours des techniques dont on nous dit qu'elle va remplacer l'homme, je pense à l'intelligence artificielle, aux robots, l'homme doit évidemment s'interroger pour savoir, lui, ce qu'il veut faire de ses outils pour garder la maîtrise des choses et rester dans son humanité. Donc, plus il y a de progrès scientifiques qui posent des questions et plus l'éthique doit tenter d'y répondre avec la fidélité à vos valeurs humaines.
Alors, quelle différence vous faites entre la morale et l'éthique ? Parce que ça peut prêter à confusion. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre.
Mais il y a une différence fondamentale, c'est que la morale, c'est une série de règles qui sont là pour répondre à un certain nombre de situations. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'exploiteras pas une personne vulnérable, tu n'abuseras pas d'un enfant, bref, des règles. L'éthique, c'est le contraire. On a des situations qui se présentent et qui ne relèvent pas de la morale. Quand on parle d'intelligence artificielle, il ne s'agit ni de tuer, ni de voler, ni d'abuser, ni d'exploiter. C'est nouveau. C'est une question inédite. Il faut donc cheminer dans un raisonnement éthique pour déterminer quel est le choix le plus approprié avec nos valeurs humaines.
Alors, par exemple, vous avez un exemple à nous donner en termes d'enjeux. Vous développez pas mal sur le génome ou le super
Alors, c'est simple. Oui, on peut parler du génome, on peut parler de l'intelligence artificielle. Commençons par l'intelligence artificielle, c'est plus accessible pour les gens. D'abord, le mot d'intelligence n'est pas bien choisi. Parce que l'intelligence, c'est quelqu'un qui est un peu acrobate dans ses pensées. Il va, il vient, il déduit. Or, il y ajoute ses sentiments, son intuition, son vécu personnel, son expérience, sa mémoire. Or, ça n'est pas le cas. L'intelligence artificielle n'a pas d'intuition, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas de bon sens. Donc, ça n'est pas une véritable intelligence. Simplement, elle nous apporte des éléments aujourd'hui indispensables. C'est une mémoire infinie qui dépassait de loin la personne humaine. Et d'autre part, elle a des possibilités monstrueuses de calcul. Donc, c'est un outil dont nous ne pourrons pas nous passer, mais il ne faut pas, et d'ailleurs, à mon avis, elle ne pourrait pas remplacer l'homme. D'ailleurs, puisque mon livre est consacré à la médecine, quand un malade vient chez un médecin, il ne vient pas rencontrer une machine, il vient rencontrer un visage, celui du médecin qui le reçoit, qui va le regarder, qui va lui poser des questions et qui va comprendre qui vous êtes et ce que vous attendez de lui. Ce n'est pas le cas d'une machine. Pour le génome, c'est pareil. Les transhumanistes aujourd'hui, ce courant de pensée qui voudrait que l'homme soit amélioré avec des gènes de meilleure qualité, les transhumanistes sont l'expression extrême du matérialisme. Pour eux, l'homme n'est que la somme de ses gènes. Et donc, il suffirait de mettre de bons gènes pour qu'ils soient de meilleure qualité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de sens. L'homme est composé à la fois de ses gènes. Il est donc hominisé. À la naissance, un petit homme ne ressemble ni à un hippopotame, ni à un rhinocéros. C'est un petit homme. Mais si vous le laissez comme les enfants sauvages, les enfants loups, il n'apprendra ni à parler, ni à marcher sur ses deux jambes, ni à manger, ni à se tourner vers les autres. Bref, il ne s'humanisera pas. Autrement dit, un génome nous hominise, il ne nous humanise pas. Et on ne peut pas considérer que nous sommes simplement des hominisés, nous sommes aussi humanisés. Voilà pourquoi je pense que l'intelligence pratique et puis l'intelligence du cœur, la raison et le cœur vont ensemble, nous rappellent qui nous sommes et que nous ne sommes pas compatibles avec l'obéissance à des machines.
D'ailleurs, vous dénoncez dans votre livre le dualisme qui a été longtemps la pratique en médecine, du corps et de l'esprit.
Oui, mais ça, c'est Descartes qui a séparé d'une manière, à mon avis, un peu rapide et artificielle, le corps et l'esprit. Mais à la même époque, le philosophe Spinoza disait « Non, je ne suis pas d'accord. Le corps et l'esprit font un tout indissociable, ils s'entremêlent. » Et d'ailleurs, on le sait bien quand on parle de maladies psychosomatiques. Et donc, moi, je crois que quelqu'un qui a de la peine, eh bien, il n'a pas d'entrain physique, il n'a pas d'appétit physique. Au contraire, quelqu'un qui est poussé par des succès se sent un dynamisme, se sent capable de courir un marathon ou presque. Et donc, on voit bien que les deux sont liés.
D'ailleurs, vous parlez de santé mentale, c'est une belle transition puisque vous dites que la santé mentale est un des enjeux majeurs de santé publique aujourd'hui, même pour les années à venir. Je découvre malheureusement, en lisant votre livre, et sans surprise, que les maladies mentales prennent une part notable dans les 9000 décès annuels par suicide qui font de la France le pays ayant un taux de suicide le plus élevé d'Europe. Ce qui fait, selon vous, que la psychiatrie deviendra une des médecines de pointe et que la santé mentale est un des grands défis de la médecine.
Je pense, pour schématiser rapidement, donc quand on schématise, on est toujours un peu excessif, mais quand même je le fais, je pense que le 21e siècle sera le siècle du cerveau et donc de la pensée, du comportement, et que nous devons progresser dans les maladies mentales dont on ne sait, il faut bien le dire, pas grand-chose aujourd'hui. On est capable de traiter comme ci, comme ça, de calmer ceux qui sont un peu agités ou au contraire dynamiser ceux qui sont apathiques. Alors, les psychiatres n'aimeraient pas que je dise ça, et je les comprends, mais c'est une caricature. En fait, devant des gens qui ont une maladie mentale, nous n'avons pas encore trouvé l'équivalent de la médecine somatique, c'est-à-dire la médecine du corps aujourd'hui. Si je voulais faire une comparaison, je dirais que la santé mentale en est, au regard des maladies mentales, comme les maladies pulmonaires au moment où l'ANEC découvre le stéthoscope au début du 19e siècle. Donc, c'est une spécialité formidable qui va nous permettre de mieux comprendre l'homme et ses différents ressorts. Moi, aujourd'hui, si je devais m'orienter, je ne renierais pas la pédiatrie et la génétique que j'ai choisie, mais je porterais une très grande attention à la psychiatrie qui, je pense, est une spécialité qui va grandir et nous apporter énormément.
Oui, sachant que j'ai été regarder un peu les chiffres, hein, ils ne sont pas nombreux. On a 15 388 psychiatres en France en 2018, soit 23 psychiatres pour 100 000 habitants, ce qui est peu.
C'est peu.
Et pédopsychiatre, j'ai rencontré un pédopsychiatre il y a quelques semaines, Bruno Falissard, et il m'avouait qu'ils étaient 800 pédopsychiatres en France,
mais
pour
oui,
toute la
mais...
France.
Alors ça tient à une chose. D'abord, nos médecins actuels sont encore sélectionnés sur des orientations scientifiques du baccalauréat. On a donc essentiellement des scientifiques. Et pour les scientifiques, il faut des chiffres, il faut une logique, et donc c'est l'anatomie, c'est la physiologie, c'est la biochimie. Ce sont des choses que l'on peut comprendre. En revanche, pour approcher l'esprit humain, il faut avoir une sensibilité philosophique, une sensibilité métaphysique. Il faut essayer de comprendre souvent l'incompréhensible. Et je pense que nous aurons besoin de plus en plus de psychiatres et nous aurons besoin de modifier le recrutement de nos futurs médecins.
Donc c'est ainsi que la formation ?
Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des quotas d'humanistes. Alors, je ne veux pas dire qu'il y aurait les médecins humanistes et ceux qui ne seraient pas. Tous les médecins, par nature, sont ou deviennent humanistes. Mais pour s'orienter vers la psychiatrie de première intention, c'est quelquefois un peu difficile parce que les résultats ne sont pas évidents, les rechutes sont fréquentes, les échecs douloureux. Et ce sont des gens qui accompagnent, qui soulagent, qui peuvent quelquefois, il ne faut pas non plus être excessif, apporter des succès, mais bon, c'est une spécialité éprouvante. Moi, je connais très bien un psychiatre qui me dit que tous les jours, ce sont les malheurs du monde qui déboulent dans son cabinet. C'est ça. Moi, j'ai une admiration, une très grande admiration pour les psychiatres.
Alors, vous dénoncez aussi l'obésité des jeunes, puisque c'est quand même aujourd'hui 18,2% des ados qui sont en surcharge pondérale. Vous dénoncez également la problématique liée à la vaccination. L'OMS a classé en 2019 l'hésitation vaccinale parmi les 10 menaces les plus importantes contre l'humanité.
Oui.
D'ailleurs, j'apprends qu'au niveau du papillomavirus, qui a été déclaré aussi comme priorité de santé publique par l'OMS en 2018 pour éliminer les cancers du col utérin, de la gorge et de l'anus, que les hommes... Les hommes, autant que les femmes,
oui,
doivent se faire vacciner.
Mais évidemment, parce que c'est une affection à transmission génitale et que désormais, on sait bien que l'homme, la femme, les hommes, les femmes ont des rapports intimes et que les hommes doivent être protégés comme les femmes. Mais sur le vaccin, je vais encore dire un mot. Vous avez des gens qui sont anti-vaccins. Ils seront probablement anti-papillomavirus, ils sont comme ils sont... Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde attend le vaccin contre le coronavirus. Alors, il y a quand même une espèce de contradiction invraisemblable. On attend le vaccin contre Ebola, on attend le vaccin contre le sida, on attend le vaccin contre le coronavirus, mais dans le même temps, on dégoise sur le vaccin contre la rougeole, les oreillons, l'hépatite, etc. Ça n'a tout simplement pas de sens. Simplement, par le biais des réseaux sociaux, les points de vue s'affrontent et en définitive, ceux qui sont mécontents sont beaucoup plus nombreux à s'exprimer que ceux qui sont contents et qui ne voient pas pourquoi ils iraient dire qu'ils sont contents. Et donc, on voit bien qu'il y a un biais dans la communication, dans l'expression de l'opinion publique. Donc ça, c'est le premier, c'est sur les vaccinations. Mais simplement la remarque sur le coronavirus aurait suffi à convaincre. Sur l'obésité, c'est la société qui est responsable. Vous avez des distributeurs de boissons sucrées, pétillantes ou pas, à tous les coins de rue. Et pratiquement, c'est une boisson qui est encouragée. On dit il vaut mieux boire ça que de boire de l'alcool. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut choisir entre la peste et le choléra ? Parce qu'en définitive, les boissons sucrées, c'est une catastrophe, car le sucre, comme le sel d'ailleurs, et comme les graisses, sont des poisons dès lors qu'on abuse. Et j'ajoute, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, c'est que les boissons sucrées et réputées sans sucre sont également très nocives. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas de sucre, mais ont le goût du sucre. Donc les papilles sentent un goût sucré, donc elles alertent le pancréas qui se met à sécréter son insuline. Pour rien. Et donc, non, moi ce que je crois, c'est qu'on a oublié la simplicité, que derrière, il y a des préoccupations mercantiles et commerciales qui ne font pas de bien à la santé humaine.
Alors, vous dénoncez aussi la pollution de l'air. Alors là, je découvre, évidemment, c'est dans l'air du temps, mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent les chiffres et ce n'est pas assez pragmatique. Là, je découvre que c'est quand même 7 millions de décès par an dans le monde qui sont en lien avec la pollution de l'air. C'est la sixième cause de mort précoce dans le monde devant l'alcool, oui, la mauvaise alimentation et le manque d'activité physique, tout âge et sexe confondus.
Enfin, vous respirez 20 fois par minute à peu près, ou 25 fois, et si vous respirez de l'air plein de microparticules, voire de nanoparticules qu'on avait ignorées jusqu'à un temps récent, ces particules vont s'accumuler dans vos poumons, vont gêner évidemment l'oxygénation, vont probablement entraîner petit à petit de la fibrose et provoquer de l'asthme, des bronchites chroniques et puis de l'insuffisance respiratoire. Ça fait un moment qu'on le sait, ça. Mais dites aux gens que s'ils continuent d'utiliser leur voiture, il est possible que dans 20 ou 30 ans, ils fassent une bronchite chronique, vous aurez exactement le même résultat qu'avec le tabac. Vous dites aux jeunes, mais vous risquez d'avoir un cancer du poumon quand vous aurez 50 ans, ils en ont 20. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient à faire de ce qui se passera dans 30 ans ? Ils n'établissent pas de lien. Et c'est une réalité qui est refusée. Vous pouvez mettre toutes les images morbides sur les paquets de cigarettes. Moi, je suis, de ce point de vue-là, très inquiet sur la capacité des jeunes à envisager leur vie dans la durée. Or, cette vie va durer, en principe, de plus en plus longtemps, s'ils sont en bonne santé. Mais notre santé, nous en sommes responsables.
Et donc, est-ce que je dois comprendre qu'effectivement, aujourd'hui, les jeunes, enfin même la population d'une manière générale, est désinformée ?
Je pense que les jeunes, alors je parle des jeunes, adolescents, jeunes adultes, et a contrario, on sent monter chez les jeunes un désir d'autre chose. Et je trouve que c'est très encourageant, parce que j'ai commencé à vous répondre en parlant de matérialisme, d'individualisme, d'hédonisme. Or aujourd'hui, les jeunes qui se préoccupent de l'avenir de la planète, ils sont plus individualiste du tout. Ils disent il faut qu'on s'y mette tous ensemble. C'est rassurant. Ils parlent d'avenir et pas d'instantané. Ils disent il nous faut un environnement de qualité durable. Et donc, et ensuite, ils parlent d'un engagement et pas seulement d'un plaisir pour eux. Donc, ce que je crois, c'est que nous amorçons la décrue de la période que j'évoquais en commençant, qu'on appelle la pensée postmoderne. Je pense que nous allons vers une autre époque, une nouvelle forme d'ailleurs de spiritualité d'une certaine façon, parce que l'esprit, l'intelligence pense à l'avenir, pense au devenir de la planète, au devenir des humains qui l'habiteront, et ils se disent mais on ne peut pas laisser les choses aller comme ça, et ils ont 100 000 fois raison.
Eh bien, merci, Monsieur Mattei.
Merci à vous.
pour votre éclairage et pour votre livre. Est-ce que vous auriez, enfin, quelle a été la motivation pour vous? Pourquoi avez-vous écrit ce livre?
J'ai écrit ce livre pour une raison simple, c'est que j'ai vu l'invasion des nouvelles technologies et j'ai vu une médecine qui pourrait être confrontée à une rupture dans l'exercice médical. Nous avons encore une médecine humaniste aujourd'hui. Si on se laisse envahir par les technologies sans préserver le colloque singulier entre le patient et le médecin, alors la médecine deviendra une science de l'ingénieur et je ne pense pas que c'est ça qu'attendent les malades. Donc, j'ai voulu dire oui, nous avons des techniques, elles sont précieuses, elles sont utiles, elles sont souvent efficaces, elles vont permettre de guérir des maladies qu'on ne guérissait pas hier, mais attention, c'est toujours l'intelligence humaine, l'émotion humaine qui doit rester maître d'œuvre.
Bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Monsieur Mattei. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à y mettre des étoiles. Je vous rappelle le titre du livre de Jean-François Mattei. Santé, le grand bouleversement. Comment serons-nous soignés demain aux éditions Les Liens qui Libèrent. Je vous donne rendez-vous sur bloomingyou.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !